Amis auditeurs, bienvenue à vous tous pour notre moment où nous découvrons à travers des ouvrages, des différents livres spirituels, bien évidemment, nous découvrons des appuis pour notre foi, pour soit l'enrichir, soit l'édifier. Et nous savons aussi que la littérature, je dirais, spirituelle ne manque pas. Et dans ce temps, Pascal, j'avais plusieurs propositions à vous faire. Et puis, bon, comme vous l'aurez peut-être remarqué, donc j'aime beaucoup tout ce qui concerne aussi la tradition hébraïque. Et j'ai pensé tout simplement, pour lire bien les fondations avec vous, d'ailleurs, je vous proposerai très prochainement un livre qui est un monument, c'est celui sur les bénédictions, les Berachot, l'Eucharistie, la Pâque en fait, par Louis Bouillet, qu'on ne présente plus, grand donc exégète et théologien qui nous a laissé, puisqu'il est mort récemment, qui nous a laissé donc ce très beau texte. Mais pour aujourd'hui, j'ai choisi d'autres ouvrages, en fait. J'ai choisi tout simplement ce qu'on appelle la Haggadah de Pâques. Alors, la Haggadah de Pâques, c'est le récit de la Pâque chez nos frères juifs, qui au cours du Seder Pascal, c'est-à-dire au cours de la nuit de Pâques, vont utiliser ce livret qui, pour chaque juif, rappelle la toute-puissance de Dieu et le grand moment fondateur aussi d'Israël, qu'est le passage de l'Exode, de la sortie de l'Égypte. Alors, juste un petit rappel, nous savons que lorsque Jésus célèbre ce qu'on appelle, nous, la dernière scène, le dernier repas, la scène, donc avec ses disciples, il est en train de célébrer la Pâque juive, comme tout juif observant de la loi. Jésus, donc pendant toutes ces années avec ses disciples, avec sa famille, avec sa mère, avec Joseph, avec ses familiers, a célébré cette Pâque, dont je vais vous parler dans quelques instants. Et c'est donc au cours du dernier repas, de la scène, qu'il va simplement, c'est peut-être vite dit, mais il va en quelque sorte garder l'essence de la Pâque, de ce mémorial, et transformer deux actes importants que sont dans la Pâque, aussi bien dans la Pâque juive que dans la Pâque chrétienne, c'est à savoir le pain et le vin. Tout tourne autour du pain et du vin. Et ce pain qui rappelle l'Exode, le pain azim qui rappelle donc l'esclavage de l'Égypte, devient désormais le corps du Christ et le sang de l'alliance que les pères ont avec Moïse, ont scellé avec Dieu sur le mont Sinaï, devient désormais, ce n'est plus cette alliance-là qui est célébrée, mais ce sera celle de la rémission des péchés, du pardon des péchés à travers le sang du Christ. Alors, la Haggadah, j'en ai choisi deux, mais vous en trouvez bon nombre. J'ai pris donc une Haggadah, donc ces récits donc, de la Pâque juive, donc, où il y a toute une partie d'ailleurs qui est écrite en hébreu et puis une partie en français, fort heureusement pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Et puis il y a aussi une très belle, alors celle-ci je l'aime beaucoup, mais parce qu'elle est enluminée, elle est pleine d'enluminures très très belles, des enluminures médiévales de la collection de Haggadot de la British Library de Londres, de Kalman Levy. Alors celle-ci est vraiment belle, c'est celle que bien sûr je vous recommande. Mais celle donc, dont je vous ai parlé également précédemment, elle est très riche, toutes les premières parties. Et donc, on commence normalement, vous le savez, à la fin du livre, pour ce qui nous concerne, pour pouvoir faire une lecture véritablement de la Haggadah. Et ce récit de la Pâque juive, donc, il va être, c'est le support, je dirais, c'est le missel qu'utilisent les Juifs pour rappeler ce moment fondateur de la Pâque et d'Israël. Je vais vous proposer d'abord les introductions Et ensuite, bien sûr, je ne peux pas tout vous lire. Je vais prendre quelques passages qui aussi nous parlent et font référence à la célébration aussi de la messe telle que nous la connaissons. Et particulièrement, je ferai allusion à la veillée pascale, à la vigile. Laisse partir mon peuple. Tel est l'ordre que Moïse et Aaron, le prophète donc et le prêtre, donnent à Pharaon. Qui est Dieu pour que j'écoute sa voix et pour laisser partir Israël ? Répond Pharaon. J'ignore Dieu et je ne laisserai pas partir Israël. C'est donc cette réponse qui est donnée par Pharaon. Tout dialogue entre la tyrannie et la liberté pourrait se résumer à cet ordre et à cette réponse. Dieu est l'absolu de la liberté humaine, individuelle et collective. C'est en son nom que Moïse se présente au roi d'Égypte et qu'il réclame la libération des Hébreux, nomades entrés d'eux-mêmes dans le delta du Nil à cause de la soif et de la famine et à présent asservis et opprimés par leurs hôtes. La caractéristique du tyran est d'ignorer Dieu, le Dieu de la liberté dont il usurpe le pouvoir. Bien plus, il le craint et en arrive à le haïr, comme ce qui sape de l'intérieur lentement et sûrement son autorité, son système. Il l'ignore, il veut l'ignorer et ne pourrait écouter sa voix libératrice sans se mettre lui-même en question et sans relier son autorité à celle de Dieu, du Dieu d'Israël. La première leçon des événements d'Égypte est que tout pouvoir est relatif, qu'aucun pouvoir humain ne peut être absolu. Qu'elle soit individuelle ou collective, l'autorité verse nécessairement dans la violence et dans le mal quand elle refuse de rendre compte de son sens, de son fondement, de son origine, puisqu'elle ne peut se fonder elle-même sans arbitraire, puisqu'elle ne peut se placer à l'origine sans usurpation, et puisqu'elle ne trouve son sens que dans l'éthique et dans le bien universel. La libération d'Égypte représente encore pour nous l'intervention de Dieu dans l'histoire. Il ne suffit pas en effet de proclamer quel fut le triomphe de Moïse sur Pharaon, du prophète sur le tyran, de la liberté contre l'esclavage. Il faut encore avoir le courage intellectuel et spirituel d'aller plus loin, comme le fait la pensée exigeante des rabbins. L'affirmation de la liberté dans l'histoire et dans la nature est celle d'un dépassement de ce qui est par ce qui doit être. Les lois naturelles sont celles de la force, nous le savons à présent de manière certaine. Les lois de l'histoire sont également celles de la force et de l'intérêt. C'est parce que Pharaon est fort qu'il peut asservir les Hébreux. C'est parce qu'il a besoin de main-d'œuvre exploitée et opprimée pour l'équilibre de son économie qu'il ne connaît pas Dieu et qu'il ne veut pas laisser partir Israël. Ce serait, entre parenthèses, ce serait perdre une main-d'œuvre à bon marché, ce qui n'est pas dans son intérêt. Le principe de la liberté donc n'est pas naturel, n'est pas de nature historique, il n'est donc pas une loi mais un ordre, un commandement, un devoir, une obéissance qui accomplit l'homme, la société et l'humanité tout entière. Nous dirons qu'il est transcendant, qu'il est révélé, qu'il est divin, qu'il est une mitzvah, hein, ça veut dire un ordre divin, un précepte. La liberté n'advient pas de l'histoire, elle ne surgit pas de la nature ni n'émerge de ce qui est, elle survient de ce qui doit être, de l'extérieur de l'histoire et de la nature. Nous sommes donc fondés à dire avec le discours public que Pessah, c'est-à-dire Pâques, est non seulement le temps de la libération, mais aussi et surtout le signe de l'intervention divine dans l'histoire, l'affirmation de la transcendance et la victoire sur la nature de l'être. Cette fête coïncide avec le printemps, c'est-à-dire avec la résurrection de la nature. Le texte biblique le souligne. Dieu dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Le mois de la sortie d'Égypte est celui de Abib. C'est le mois d'avril. Abib, ça veut dire « épi » en hébreu. Après l'exil en Babylonie, les rabbins l'appelleront Nissan. C'est le premier mois du printemps. Et puisqu'il est considéré comme le premier mois de l'année, le calendrier du printemps est adopté ici parce qu'il sert à lier la sortie d'Égypte à la résurrection de la nature, etc. Donc ensuite, il y a encore de très belles explications. Donc je voudrais juste vous dire ceci. En premier lieu, Pessah, la Pâque, est le moment fondateur d'Israël, mais c'est simultanément et au sein de ce particularisme le discours fondateur de l'humanité. N'est-ce point là la promesse faite à Abraham alors qu'il n'était encore qu'Abraham ? Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, ta famille, de la maison de ton père vers leur pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois une bénédiction. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » La libération universelle est donc vécue chaque année par les Juifs au moment de la Pâque, en attendant qu'elle soit réalisée par tous les peuples toute l'année. Le Seder de Pessah, alors le Seder, ça signifie mettre en ordre. Donc c'est tout l'ordre, si vous voulez, de la soirée, hein, de la soirée de la Pâque, de la fête de la Pâque. C'est toute la liturgie. Elle est aujourd'hui limitée pour nos frères juifs à la famille juive de la libération passée, de l'intervention divine et du messianisme auquel est vouée toute l'humanité. C'est-à-dire c'est aussi l'attente du Messie, parce que selon également les Midrash, il nous est rapporté que le Messie reviendra une nuit de Pâques. Donc ce serait beau que ce soit la nuit de Pâques où nous célébrons la Pâque, puisque nous aussi nous attendons le retour, nous attendons le retour du Messie, de Dieu, du Christ en gloire, et espérons que ce soit une nuit de Pâques. Ainsi, ce sera aussi le retour du Messie pour les frères juifs, et il n'y aura plus de différence, de séparation, ni juifs, ni païens, ni chrétiens, tous unis à celui qui nous sauve. Alors, dans la Pâque juive, il y a donc dans ce Seder tout un ordre. Alors, je vais essayer de le reprendre. Je pense qu'il est mieux explicité dans l'autre livre que j'ai. Donc, c'est la fameuse Agada enluminée, qui est vraiment très belle. Voilà, oui, c'est ça. Donc, il y a les éléments donc, constitutifs du Seder, à savoir, il y a trois matzot, c'est-à-dire... La première, ce sont ces fameux ordres divins. La première sert à la récitation habituelle de la prière du début de chaque repas, et les différentes mitzvahs. Mais la matzot, c'est le pain azim, le matza. Donc le pain azim, donc le premier pain va servir à la récitation habituelle de la prière du début de chaque repas. La deuxième est partagée en deux, une moitié destinée à la bénédiction spécifique de la Pâque, stipulant qu'il est interdit de consommer du pain levé, du pain avec levain. L'autre est conservée jusqu'à la fin du repas pour ce qu'on appelle l'afikomane. Alors peut-être qu'on aura le temps de l'expliquer un peu plus tard, mais il symbolise en fait la consommation de l'agneau pascal. Et puis la troisième, donc il y a trois pains azim, si vous voulez, trois matzot. La troisième, elle est destinée à la consommation simultanée de la matza et des herbes amères. Des herbes amères qui rappellent l'esclavage, parce que dans le plat du Seder, donc tout juif peut lire l'histoire de l'Exode. Les herbes amères, ça rappelle l'amertume d'Israël en Égypte. Il y a un œuf qui est le symbole des sacrifices offerts au temple, mais qui est aussi le symbole du deuil, mais qui est aussi cette forme arrondie de l'œuf. Elle rappelle aussi l'éternité, le cycle de la vie et de la mort. Il y a un os grillé symbolique, c'est le symbole du sacrifice de l'agneau pascal. Il y a les céleris qui doivent être trempés dans de l'eau salée, qui rappellent les larmes versées durant l'esclavage. Il y a ce qu'on appelle le maror, ou les herbes amères, donc je vous en ai déjà parlé, qui rappelle donc la souffrance des Hébreux en Égypte, hein, cette amertume. Et puis il y a le haroset, ce qui est un mélange de fruits. Alors il y a des pommes et des noix, donc vous voyez, il y a un peu de douceur. Pommes et noix, qui évoquent, et ça prend la couleur des briques d'Égypte, qui évoque donc le mortier qui est utilisé par les Hébreux lors de la construction des pyramides. Et puis il y a le vin, bien évidemment. On est tenu lors du Seder de boire au moins 4 coupes de vin en signe de joie. Nous, on a retenu une des coupes donc par rapport à la Pâque chrétienne. Alors, ce sera intéressant de faire aussi ces parallèles. Alors, voici la soirée donc pascale du Seder. Elle est composée à la manière d'une leçon de pédagogie idéale. Le souci primordial de la tradition juive tout au long de cette soirée importante entre toutes est de transmettre aux générations futures la mémoire de l'événement fondateur de l'histoire du peuple hébreu, tout en l'actualisant chaque année. Oui, parce que c'est vraiment le sens du mot mémorial, et c'est ce que va dire Jésus, faites ceci en mémorial de moi. Ça veut dire en rendant présent, à chaque fois, vous me rendrez présent. Ce n'est pas un simple souvenir hein, du passé. À chaque fois que ceci sera célébré, Dieu intervient de nouveau. C'est-à-dire, à chaque fois que vous célébrez, vous rendez présent la Pâque. Donc, c'est aussi au cours de cette nuit, je dirais, c'est une grande nuit de catéchisme en quelque sorte, puisque les enfants auront une part très importante dans le déroulement de la veillée et seront transmis la foi. Le Talmud a voulu privilégier la conception d'un événement passé comme fondateur d'une espérance absolue dans la rédemption ultime. C'est pourquoi, symboliquement, la soirée commence par la présentation aux convives et surtout aux jeunes enfants parmi eux du pain de misère, c'est donc la matzah, et se termine par l'espérance plurimillénaire, puisqu'on dira l'an prochain libre à Jérusalem. En prélude à la soirée pascale, les rabbins ont fixé à la veille au soir, à la tombée de la nuit, la recherche symbolique des dernières miettes du pain levé à la lueur d'une bougie. Tous les thèmes de la Pâque se retrouvent ici, la lumière de l'espérance, l'ouverture du cœur au sein de la plus grande obscurité, la volonté de faire disparaître le pain levé, entendez la tentation du mal, hein, parce que le pain avec le vin, donc rappelez-vous, durant la nuit d'Égypte, le pain n'a pas le temps de lever. Et ce pain, ce qu'on appelle donc azim, ça veut dire sans levain, ce pain maigre, dirons-nous, qui est d'ailleurs tout simplement aussi la base de l'hostie que nous recevons. L'hostie, c'est du pain azim, c'est du pain sans levain. Alors, il a cette forme d'une manière, je dirais, pratique, au temps où c'était les masses qui étaient dans l'Église, quand, au temps de Constantin, quand toutes les nations sont rentrées, toute l'Europe est rentrée dans l'Église, s'est convertie au christianisme, eh bien, dans les grandes assemblées, il fallait, pour un souci d'hygiène et pratique, donc petit à petit, au cours des siècles, il a fallu rendre le pain eucharistique plus accessible. Donc c'est pour ça qu'il a cette forme. Mais voilà, il représente, il est fait à la manière tout à fait de la même manière que le pain azim. Donc je continue. L'ouverture du cœur, le pain levé, voilà. Et donc le levain, dans toutes les prières qui vont suivre d'ailleurs au cours du Seder, on va dire que le levain, c'est vraiment le ferment du mal. Le levain, c'est toujours le symbole de... Le pain, c'est le symbole du monde, en quelque sorte. Et le levain dans la pâte, c'est le ferment du mal qui, effectivement, s'insinue aussi dans notre monde, dans notre société. Donc la recherche... des levains, du pain levé, c'est très important, ce sera la première étape. On va chercher dans toute la maison, c'est même un jeu avec les enfants parce que le père de famille va cacher généralement un bout de pain levé pour que les enfants aient la joie de le trouver. Et ensuite, tout ce qui aura été trouvé donc, de pain levé va être jeté dans un grand feu, donc on voit tout de suite l'image de notre feu pascal, hein, ce grand feu où sont brûlés tout ce qui reste en nous. D'ailleurs, il y a une très belle prière du début qui va dire « Tout ce qui est caché et qui reste en nous de péché hein, ou de tentation vers le mal, toi, détruis-le. » Voilà, il sera détruit au feu. Donc, le récit ensuite est scandé par les quatre coupes de vin qui sont symboles de bonheur et de joie, il y a référence au psaume 104, et qui va marquer les temps forts du récit, et qui se réfère chacune à l'un des versets de l'Exode, anticipant sur la sortie d'Égypte. « C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, je suis le Seigneur, je veux vous soustraire au jour égyptien, je vous délivrerai de l'esclavage, je vous affranchirai d'un bras étendu et je vous adopterai. » Alors ça, c'est merveilleux. Et puis, au cours de la soirée, donc, ça va tourner autour du pain et du vin. Chaque fois qu'on va parler de l'esclavage, de la misère, on va couvrir le pain, les matzot. Et puis, chaque fois qu'on va parler de la main forte de Dieu qui, par son prophète Moïse, va libérer le peuple d'Égypte, à chaque fois, on lèvera la coupe de vin, etc. Donc, c'est très beau. Tous ces signes sont faits pour éduquer les enfants, pour montrer aussi concrètement, pour rendre encore plus concret ce que représente véritablement la PAC. Dans la PAC, les enfants vont aussi être interrogés. Il y a une typologie des enfants. Il y a le sage qui va poser des questions pertinentes et qui aura droit à des réponses adaptées à son niveau de connaissance. Et puis il y a le méchant qui sera tenté de rompre le lien historique avec sa famille et son peuple et dont il convient de réduire l'agressivité. Il y a le naïf qui pose des questions simples. Et enfin, il y a celui qui ne sait pas formuler de questions et on va l'aider tout particulièrement à réfléchir et à s'interroger. Alors, je vous ai parlé de l'agneau pascal, bien sûr, puisque c'est le sang de l'agneau sur le linteau des portes, dont sont badigeonnés les linteaux des portes. Et l'ange exterminateur, rappelez-vous, dans la diplée d'Égypte, passera outre. Donc, tous ces signes sont visibles sur la table, mais en même temps, ce n'est pas un repas comme nous pourrions l'entendre. C'est vraiment une liturgie. Il y a d'abord donc, la recherche du pain levé. Voilà. Et puis, il y a, donc, je ne vous lis pas les prières sur la recherche du pain levé, c'est très beau. Il y a donc la sanctification sur une coupe de vin. Il y a la purification des mains. Il y a la consommation d'un brin de céleri. Il y a la brisure de la matzah intermédiaire. Donc, c'est pour ça, quand on brise le pain, la fraction du pain, le père de famille va dire, voilà, ça, c'est le pain de l'esclavage de l'Égypte. Et de la même manière, Jésus prendra ce pain. Il dira, désormais, ce n'est plus le pain de l'esclavage de l'Égypte, mais ce pain, c'est mon corps. Livré pour vous, hein, voilà, qui brise la mort hein, avec cette fraction très belle du pain, etc. Alors il y a l'allumage des lumières, et puis il y a chaque fois qu'on va, il y aura une sanctification sur les coupes de vin. Alors il y a une très très belle chose qui va se passer, c'est qu'on va retirer au bout de la, je ne sais pas si c'est sur la première, hein, voilà, mais je reviendrai. On va retirer quelques gouttes de vin quand on va boire sur la libération qu'offre Dieu, sur cet esclavage qui va être détruit. Et chaque fois qu'on va faire mention de... Parce qu'on va raconter de toutes les manières possibles l'Exode. Comment, en partant de mon père était un Araméen errant, etc. Et en revenant sur tout ce qui s'est passé en Égypte, etc. Depuis Joseph, avec les 10 plaies d'Égypte, le passage dans les déserts, etc. Quand cette histoire sera racontée, les enfants poseront des questions et ils diront « Mais qu'est-ce qui différencie cette nuit de toutes les autres nuits ? Les autres nuits, nous mangeons du pain levé. Cette nuit, nous mangeons seulement de la matzah, du pain azim. Toutes les autres nuits, nous mangeons toutes sortes de légumes. Cette nuit, on mange seulement des herbes amères. Toutes les autres, nous ne trompons pas nos aliments, pas même un seul. Mais cette nuit, nous trompons nos aliments. » Dans, vous savez, cette espèce de vinaigrette, en fait, qui rend aussi cette amertume de l'Égypte, etc. Toutes les autres nuits, nous sommes assis ou accoudés. Et cette nuit, nous sommes assis ou accoudés. Cette nuit, nous sommes tous accoudés. Accoudés, c'est vraiment le repos. Hein, c'est la liberté. Alors, le fait de poser des questions, déjà, c'est un signe de liberté. La liberté de chercher, de découvrir. Et à ces questions qui seront posées, on va répondre. Et chaque fois, c'est ce qui s'appelle la Haggadah. Ça veut dire vraiment le récit. On va raconter les merveilles de Dieu. Pourquoi ? Et pourquoi cette nuit est différente ? Parce que en cette nuit, Dieu délivra le peuple de l'Égypte, il ouvrit la mer Rouge, etc., etc. Et puis il y a le garçon aussi qui fait cette typologie des quatre enfants. Des quatre enfants correspond aussi aux quatre attitudes un peu spirituelles. L'enfant qu'on dit l'enfant méchant, c'est-à-dire qu'il va dire « Mais qu'est-ce que c'est que tous ces signes qu'on ne comprend rien du tout ?» Que vous et vos pères, il va s'exclure lui-même de la communauté, et on lui répondra de la même manière. Toi, si tu avais été esclave en Égypte à ce moment-là, tu n'aurais pas passé la mer Rouge, tu serais resté esclave et tu serais mort en Égypte. Voilà, donc il y a tout un tas de prières, de bénédictions qui sont magnifiques, et puis quand vous les lirez, vous verrez qu'elles vont correspondre aussi, on va retrouver des parallèles avec la liturgie eucharistique. Alors je vous disais, à une des coupes de vin, on va parler des plaies. Ah voilà, c'est au moment des plaies d'Égypte. On va à la dernière plaie, la mort des premiers-nés. Bien que les plaies aient contraint les Égyptiens à laisser sortir le peuple d'Israël, nous ne saurions nous réjouir de la souffrance de nos oppresseurs. Au contraire, nous témoignons du fait que notre joie est atténuée en jetant une goutte de vin de notre verre à chacune des plaies que nous évoquons. voyez, on ne peut jamais, même si, voici, ça a été le parcours pour pouvoir être libéré hein, de cet esclavage, mais on ne saurait se réjouir de la souffrance de nos oppresseurs. Cette reconnaissance de la souffrance infligée aux Égyptiens doit nous rappeler que notre liberté ne peut être acquise aux dépens d'autrui. Les gouttes de vin peuvent aussi, rapporte un midrash, symboliser les larmes de Dieu versées lorsque les Égyptiens furent noyés. Vous voyez, c'est très beau. Donc notre joie, elle est atténuée, voilà, parce qu'aucune victoire ne peut être acquise aux dépens d'autrui. Et puis, il y a tellement d'autres choses, notamment la fin, ce qu'on appelle les hallels, les différents psaumes de la Pâque, que nous récitons également, hein, qui correspondent à peu près au psaume, du psaume 112 au psaume 118. Et notamment, il y a les chants, le chant de l'agneau, enfin de très beaux chants, donc, dont on a gardé d'ailleurs la tradition. Vous seriez surpris de reconnaître beaucoup de choses. Voilà, alors, c'était une émission un peu spéciale. Je voulais vous inviter vraiment à découvrir la Haggadah de Pâques. Vraiment, les récits, vous en trouvez de différentes. Elles sont toutes très belles, de toute façon. Donc, vous pouvez en trouver de différentes éditions. Et vous régalerez à découvrir, à travers les différentes bénédictions, les différents récits, toutes nos racines, en quelque sorte, et les racines également de notre Eucharistie. Il me reste à vous souhaiter de très saintes lectures et puis à vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, bien évidemment.